I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans le podcast
Les rois du monde estonnent, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la sa symphonie requiem, j'avoue je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi.
Oui.
C'est réussi.
Et cette fois on y arrive, ça y est.
Bravo. Enfin,
on a réussi à prendre une vitesse de croisière et à dire le titre de cette émission. D'une seule traite. Bonjour
ça
à tous.
Ça fait plus ou moins deux fois de suite, non ?
Ça fait... Oui, ça fait... Oui, la dernière fois, effectivement. On avait réussi aussi.
Ouais. On va te donner le challenge du 4 à la suite.
C'est ça. Il faut que tout le monde y arrive au moins une fois.
C'est ça. Ouais.
C'est notre épisode de juin de ce podcast. Alors, épisode un petit peu particulier parce qu'on revient à un fonctionnement distanciel, comme on dit maintenant dans le monde d'après. Et ça va être le cas, il faut qu'on vous le dise, pendant une partie de l'été, puisqu'on est un petit peu éparpillé partout dans le pays, dans le strict respect des normes sanitaires. Du coup, les épisodes de juin, juillet et peut-être août vont être un petit peu différents. On va pas forcément reprendre des comédies musicales en entier, mais on est là et on va continuer à vous parler de ce bel art de la comédie musicale avec aujourd'hui autour de la table virtuelle Ambre. Salut.
Salut.
Est-ce que ça va bien ?
Eh ben écoute, oui, tout va plutôt très bien.
Parfait. Bonjour Amélie.
Bonjour Julien. Bonjour tout le monde.
Est-ce que tout va bien également ? Oui. Et puis Virginie qui est avec nous aussi.
Salut. Et effectivement, c'est important de préciser qu'on respecte les règles du confinement, mais aussi on respecte un peu les règles de la trêve estivale, en fait, essentiellement. Ce qui explique aussi pourquoi on fait ces enregistrements à distance.
C'est ça. Mais on espère que ce n'est pas trop perturbant pour vos oreilles. En tout cas, on fait en sorte que ça le soit le moins possible. Épisode spécial du mois de juin consacré. Et puis on fait un coucou à Mélanie qui ne pouvait pas être avec nous pour cet enregistrement et à qui on fait un coucou. Donc épisode spécial aujourd'hui consacré non pas à une comédie musicale mais à une émission de télévision qui parle des comédies musicales. Mon Dieu, c'est étrange d'entendre une chanson en anglais dans cette émission.
Ça change, c'est bien.
Aujourd'hui, on vous parle de 100 ans des comédies musicales, l'émission spéciale Sidaction, les stars chantent pour le Sidaction, qui était diffusée ce jeudi à la télévision. Donc, c'était jeudi 25 juin, si je ne dis pas de bêtises. Dans le cadre du Sidaction qui était donc reporté. Normalement, le Sidaction, c'est au mois d'avril. Là, ça a été déplacé en raison du confinement. Et donc, l'émission avait lieu pile le week-end, normalement, de Solidays, qui a également été annulée. Donc voilà, on a regardé cette émission, pas ensemble, chacun de son côté. On va vous en parler. Émission donc avec tout un tas d'artistes de variété qui venaient chanter des grands extraits de comédies musicales au profit du Sidaction. Et eh bien d'ailleurs, on peut en profiter pour dire que il faut donner, voilà, au Sidaction. Ça dure tout le week-end pendant lequel on enregistre. Donc si je suis rapide pour monter l'épisode, vous pourrez encore appeler le 110, sinon ça se fait sur...
Ça dure la semaine, non ?
C'est toute la semaine ?
Ouais, je crois qu'ils ont dit ça un moment dans l'émission, okay. C'est au moins jusqu'à la fin du week-end, mais je crois que ça empiète sur la semaine aussi, me semble-t-il, mais je vais pas dire de bêtises non plus.
De toute façon, on peut faire des dons à tout moment, je pense,
voilà.
Quand même.
Pas sur... 110, ouais, voilà, sur sidaction.org, c'est toute l'année.
Bien sûr.
On va commencer par vous dire ce qu'on a pensé de cette émission qui comptait une petite quinzaine de numéros. Je crois que j'en ai compté 16, pour être très exact, avec des artistes de comédie musicale, d'autres artistes, des spectacles français, des spectacles américains, des films. Qui veut se lancer dans la critique, entre guillemets, de cette émission ?
Bon, moi, je veux bien commencer. Comme ça, on peut aller crescendo dans des avis. je suggère... sans rien spoiler, que peut-être on termine par l'avis de Ambre.
Oui, on peut faire ça.
Okay. Alors, effectivement, il y a, je crois, entre 15 et 20 numéros de comédie musicale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'était de couvrir 100 ans de comédie musicale, que ce soit des comédies musicales françaises ou des comédies musicales anglophones, on va dire, et de couvrir plusieurs périodes de la tradition des comédies musicales. Ça peut aller des comédies musicales vraiment... des années 30 jusqu'à des choses plus récentes. Donc, je trouvais que c'était chouette d'avoir fait ce choix de la variété. Les artistes sont assez diversifiés aussi. Il y a effectivement des gens qui sont des gens qui sont aguerris de la comédie musicale, qui en ont fait beaucoup, ou qui viennent reprendre leur rôle dans lesquels on ne les avait pas vus depuis très longtemps. Et il y a un petit côté, on les voit avoir vieilli malgré tout et tout, mais c'est très touchant en fait de les revoir. Et ça fait vraiment plaisir. Avec parfois certaines choses qui ont peut-être moins bien vieilli, on reviendra là-dessus. mais c'est quand même assez charmant, en fait, ce côté-là. Et ça montre à quel point la comédie musicale, c'est un genre qui s'est vraiment ancré en France, surtout ces 20 dernières années, et qui est devenu attachant. Donc, ce qui fait que quand on revoit certains comédiens reprendre leur rôle, il y a un petit pincement au cœur. Donc, ça a bien joué là-dessus. Maintenant, si je dois être critique, et je vais l'être. Le premier truc, c'est que ça n'a pas été enregistré en public, c'est normal, condition du confinement, etc.
Alors non, parce que ça a été enregistré avant le confinement.
D'accord.
Ça a été, et c'est ça que je trouve très bizarre.
C'est dommage, parce que la comédie musicale, c'est quand même un genre phare maintenant dans la variété française aussi. Et c'est ce que démontre aussi ce spectacle, cette émission, c'est que c'est un genre phare dans la variété française. Donc, ça repose aussi sur un succès populaire. On a envie de voir le public réagir, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir enregistré en public. L'année dernière, l'émission qui correspondait à ça, c'était quelque chose qui était consacré à Starmania. C'était fait au Palais des Congrès, il y avait le public, et ça se ressent, et c'était quand même beaucoup plus chouette. Mon deuxième gros bémol, là encore, je vais faire la comparaison avec l'émission de l'année dernière, ce qui n'est pas terrible, mais bon. L'émission de l'année dernière, c'était des reprises de Starmania faites par différents artistes, là encore, de la scène française. Et chacun y a apporté vraiment sa patte. Et il y avait une variété, il y avait une vraie prise de risque, etc. Et là, je trouve ça a vraiment manqué. En fait, moi, c'est mon principal bémol, c'est que tous ces artistes qui ont repris, l'ont fait très bien techniquement pour la plupart. Il y a eu des défauts et ça aussi, on y reviendra un petit peu dans le déroulement. Mais il y avait rien d'innovant en fait. Et donc du coup, ça fait que ça devenait un peu chiant. Enfin, je veux dire, Vincent Niclot qui ouvre sur New York, New York, il a une voix qui se prête très bien à la voix de crooner, il le fait super bien, il y a les danseuses qui font exactement ce qu'il faut faire, etc. C'est chouette, mais on a déjà vu et revu tout ça, en fait. Et donc, moi, c'est ça qui reste, en fait. C'est que au bout d'un moment d'émission, au début, j'étais là, ah, c'est sympa d'avoir fait ça comme ça, ah, c'est bien, c'est un hommage à ceci. Mais en fait, il n'y avait rien de nouveau, quoi. Voilà, moi, c'est ça mon avis général.
Alors, juste avant de passer à la suite, on va quand même faire un tout petit rappel des artistes qui étaient présents dans l'émission. Il y avait donc, comme tu l'as dit, Vincent Niclot, il y avait Patrick Bruel, Angoune, Cécilia Carraé, Damien Sargue, Maëlle, Véronique Dicker, Florent Mott, Chimène Badi, Loïc Noté, Julie Zenati, Nicole Croisille, Élodie Frégé, Bilal Hassani, Carla, Marina Kaye et Daniel Lévy. Et je crois que je n'ai oublié personne.
Si, t'as oublié comme à Marielle Dombasle.
Ah oui, Ariel Dombasle,
c'est important.
Carla, oui, t'en as parlé. Et il y a quelqu'un que tu as oublié.
Ah oui, il y a ce monsieur dont j'ai oublié le nom parce que je ne le connaissais pas déjà avant.
J'avais noté aussi Agustín Galeana, qui est un Espagnol. Je ne connais pas non plus, mais je me suis sentie vieille à plein de moments dans cette émission, si je peux le dire. Mais ça, ça ne peut pas être considéré comme une critique, c'est mon problème. Voilà.
Et Amélie. Bilal Hassani, je ne sais plus si tu l'as.
Et Bilal Hassani, si, je l'ai dit, ouais. Amélie, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission ? Ah, vas-y, attends, tu voulais terminer ?
Je voulais juste rajouter par rapport aux artistes qui étaient présents, il ne faut pas oublier, il y a les danseurs aussi.
Tellement.
Et notamment, la troupe, c'est important par rapport à la comédie musicale, parce qu'il y a quand même la troupe du Paradis Latin, qui est menée par Kamel Wally, et il y avait les danseuses du Moulin Rouge. ce qui est chouette.
Voilà. C'est vrai. Amélie, ton ressenti sur cette soirée ?
Très compliqué. J'étais ravie de regarder ça. J'avais pas mal d'espoir et de. Enfin voilà, je m'attendais à un petit bonbon, une petite madeleine de Proust. Voilà, je m'attendais à plein de nostalgie et tout. Et en fait, que ce soit par le choix des artistes que j'ai pas très bien compris. Parce que à la limite, bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous en promo. Je sais pas exactement ce qui les relie, mais du coup, enfin, j'ai pas très bien. Enfin, je trouve que ça manquait de cohérence. On peut être diversifié et cohérent, et là, je voyais pas trop le délire. La présence de Patrick Bruel que je conspue, la globalité en fait me plaisait pas du tout, j'aimais pas du tout Marie-Sophie, je ne sais plus comment
la Caro
se parler aux invités et même infantiliser certaines d'entre elles, enfin j'aimais pas du tout l'aspect un peu comédie. Oh tiens, Chimène Badi qui fait des vocalises dans le couloir, incroyable, on tombe dessus totalement par hasard, c'est pour ça qu'il y a 25 caméras. Mais enfin bref, tout ce truc-là, j'ai pas trop aimé. Très France 2 finalement. Mais voilà, du coup, je suis restée un peu sur ma faim. Moi, je l'ai regardé en replay. J'ai même dû faire une pause parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus. Donc ouais, non, assez décevant. J'ai trouvé quelques perles. Enfin perles, non, j'irai même pas jusque là. J'ai trouvé quelques chouettes moments, mais ouais, je reste un peu sur ma faim.
Je vais prendre le relais du coup avant que on va aller dans le crescendo effectivement. Moi j'ai à la fois bien aimé et j'ai des gros problèmes avec cette émission. D'abord il y a un truc, c'est qu'il y a deux regards qu'on peut avoir sur cette émission. Il y a le regard de nous qui passons une bonne partie de notre temps plongé dans des comédies musicales, à en écouter, à aller au fond des trucs, et donc on a le même problème, par exemple, que dans l'émission, dans l'autre podcast Stockholm Sardou, où dès qu'il y a un article ou une émission, un truc sur Michel Sardou, on se tape la tête contre le mur parce qu'on nous parle toujours des mêmes chansons. Là, j'ai ressenti un peu le même problème, c'est-à-dire j'ai eu l'impression d'entendre une compilation de la fin des années 90, les grands airs des comédies musicales, qui serait parue en 2010, voire avant. Donc j'ai eu ce petit souci-là, et en même temps, en se plaçant du point de vue du grand public, bah c'est un peu ce qu'on a envie d'entendre dans ce genre de soirée. Donc effectivement, pas beaucoup de prise de risque, mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut ? Je pense qu'il y avait un équilibre à trouver sur mettre des tubes et peut-être d'autres choses, plus d'extraits de spectacles et de films dans les magnétos, où finalement on a vu que d'autres extraits d'autres émissions de variété. Donc c'est ça un peu qui m'a déçu, plus que les interprétations en elles-mêmes, où il y a du bon et du moins bon, mais finalement dans toutes les émissions de variété on a de très bonnes choses et des choses un peu plus décevantes, mais il y avait un moment où je me disais, ah, j'aimerais bien qu'à ce moment-là il y ait un truc qui me surprenne, et à aucun moment, contrairement à l'année dernière dans l'émission Starmania, où d'ailleurs avec Mélanie, on était dans le public et où on a eu quelques très bonnes surprises, bah là, j'ai pas eu de surprise. J'en ai eu une ou deux, mais voilà, c'était un peu limité, et j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin. Après, ce qui est bien, bah, c'est qu'il y ait une soirée qui soit consacrée aux comédies musicales, même si j'en reparlerai, mais un de mes reproches, c'est d'avoir un peu tout mélangé, c'est-à-dire de mettre dans le même sac l'Opéra de Katsu, Moulin Rouge et Le Roi Soleil, quoi. Voilà. Et Mozart, parce qu'on n'a pas entendu Le Roi Soleil.
Et les films de danse, hein, parce que moi j'ai un vrai problème à considérer que Footloose est une comédie musicale, ou avec.
Elle a été.
Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas. Moi, j'ai... comme en fait les Wings étaient vraiment vachement au film, ça me. Ouais. Bref.
Ambre, pour terminer, je crois que c'est toi qui a préféré l'émission.
Bah, je crois, hein, je crois. Et en fait, je comprends tout ce que vous dites. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à ce qu'on se fasse tous un petit kiff et qu'on soit tous en mode oh, c'est trop bien et tout machin. Donc je trouve ça étonnant, et je trouve ça intéressant du coup qu'on ait des avis divergents, mais comme d'habitude, hein, au final, j'ai envie de dire. Et juste, j'ai regardé avant de dire mon avis vraiment, j'ai regardé la date d'enregistrement, et apparemment c'était le 10 mars. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'y avait pas de
C'était quand même le début du confinement. Enfin, on commençait à évoquer.
Toujours avant le confinement, quoi. Donc, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est une supputation, n'est-ce pas? Mais non, moi, en fait, j'avais trop hâte de voir cette émission. Donc, peut-être que je m'étais conditionnée aussi à me dire que j'allais forcément aimer. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai passé un trop bon moment. J'ai trouvé les tableaux magnifiques. En effet, il y avait des trucs un peu étranges sur la diversité des invités et tout. Genre. Des gens qui avaient aucun rapport et tout, mais je trouvais ça intéressant justement de voir une fille comme Carla chanter Fame alors que c'est pas du tout sa génération à la base et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant en fait au final. Donc moi je me suis fait un petit kiff, j'avoue. Petit moment fan zone, voilà.
Mais il y avait de bonnes petites madeleines, des bons trucs qui moi je m'ont fait dire ah ouais, quand même c'était sympa ça.
Voilà.
Amélie.
Sur le point, c'était avant le Covid, il n'y avait pas de public. C'est quand même aussi un peu leur métier. Enfin, je suis d'accord, hein, normalement, leur métier, c'est aussi de le faire devant une scène, etc. Mais, j'ai trouvé un gros manque d'interprétation. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient venus sur leur pause-déj, chanter leur chanson et ils sont repartis comme ils sont venus. Et je trouve que ça fait partie de leur boulot de se mettre quand même dans les conditions, même s'il n'y a pas le public en face, en fait. Et ça, moi, ça m'a carrément manqué. Enfin, la plupart des interprétations, enfin, justement, non, des pas interprétations, du coup, des chansons, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas dedans, en fait, les chanteurs. Ils étaient vraiment, genre, ils étaient à côté. Ils pensaient à autre chose. Peut-être au Covid.
Virginie.
Et effectivement, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Julien et ce que tu disais aussi, Amélie, malgré tout, c'est le fait que c'est une émission qui manquait de cohérence globale et d'un vrai projet. C'est notre projet mais au sens où, en fait, l'émission, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il y a eu ces numéros musicaux qui étaient intercalés, comme c'était 100 ans d'histoire de la comédie musicale ou un truc comme ça, je crois que c'était ça qui était montré. C'est un concept qui est trop vaste. Enfin, je suis prof, quand je dis « faites une problématique », j'aime pas quand on fait une problématique trop large. Là, la problématique, elle est trop large. Donc, en fait, tu n'arrives pas à resserrer ton propos. Ou alors, en langage journalistique, il n'y a pas d'angle, quoi. Et en fait, on nous montrait des magnétos d'émissions passées. Effectivement, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être une question de droit, je ne sais pas. Des magnétos d'émissions passées où on voyait qu'il y avait un angle plus précis. L'émission de l'année dernière sur Starmania, c'était clairement la scène française actuelle reprend une comédie musicale qui a 40 ans. C'était un parti pris qui était intéressant et facile et vendeur. Il est montré des magnétos aussi de, par exemple, Céline Dion qui chantait Ziggy avec un playback hallucinant devant France Gall, mais là le parti pris c'était on rechante les standards de Starmania devant la femme de Michel Berger ou des choses comme ça. Il y avait des choses et qui supposaient une interaction avec le public, et là c'était même pas dans la fiche produit, en fait, j'ai l'impression. Et donc c'est vrai que ça rendait les choses un petit peu désincarnées, un peu chacun fait son match, quoi.
Et j'irai même plus loin là-dessus, j'ai le résumé de l'émission sous les yeux, qui dit que c'est inspiré des shows de variété des Carpentiers. Sauf que dans les shows des Carpentiers, il y avait une vraie vie, une vraie interaction au-delà du public, mais des artistes entre eux. Et il y avait des duos, ils se faisaient des petites blagues entre les... tout était préparé, tout était écrit. Mais là, c'était plus... S'il fallait comparer à une comédie musicale, bah les Carpentiers c'était des comédies musicales, et là c'était un conte musical où on tournait une page, et une fois que l'artiste était passé, bah soit on le revoyait plus tard en interview, soit on le revoyait plus. Et j'aurais bien aimé avoir des duos, avoir des mélanges, avoir Daniel Lévy qui chante la sa symphonie. Donc j'ai trouvé que ça manquait un peu. Virginie.
Ouais, bah moi typiquement c'est sur alors je la trouve sublimement belle en Goon. Elle est trop belle. Enfin, toujours. Enfin, voilà, j'ai girl crush sur Angoune. Mais Lady Marmelade, Angoune, donc pour dire qui a chanté Lady Marmelade dans la version Moulin Rouge, bonne idée. Avec les danseuses du Moulin Rouge, encore mieux, mais alors très dans le mimétisme. Pourquoi ? Enfin, la chanson dans la version du film, c'est justement la rencontre improbable entre quatre artistes qui cartonnaient à l'époque. Il y avait Maya, Pink, Christina Aguilera, et c'était qui la quatrième, c'était... la petite rappeuse, Lil' Kim.
Ah oui.
Et c'était chouette, parce qu'il y avait un peu un clash et en même temps quelque chose de cohérent et tout, mais c'était un duo, c'était un quatuor improbable. Là, c'est Angoune qui chante toute seule. Ça tue, en fait, le côté fun de chanter Lady Marmelade version Moulin Rouge, parce que ce qui était cool, c'était qu'elles étaient plusieurs, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça aurait été chouette d'avoir des duos un peu... des choses un peu créatives là-dessus.
Est-ce qu'on se lance dans... Alors, on va pas vous faire chanson par chanson comme d'habitude, mais on a choisi de vous faire un top 3, flop 3. Donc, on va sauter 2h30 d'émission pour arriver directement à notre top
à
et notre
fin.
Flop. Top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. Et on va commencer avec les flop 3 de chacun et chacune autour de cette grande table virtuelle. Qui veut se lancer dans son flop 3 ? Ambre, je te vois hausser les épaules, donc vas-y.
Alors, mon flop 3, j'ai pas vraiment fait un ordre, mais je vais mettre du coup en premier le manque d'interprétation. Alors, pas pour tout le monde, mais je trouve aussi qu'il y a eu un gros problème à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et le pire, c'est que c'était surtout sur les chansons les plus à émotion. Alors, j'adore Maël, par exemple. Je surkiffe ce qu'elle fait. J'adore son album. Enfin, vraiment, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a hyper bien chanté Le Monde est Stone. Mais niveau interprétation, elle aurait pu le faire en dormant. C'était pareil, quoi. Alors que c'est une chanson qui demande quand même... voilà, un petit peu d'engagement, un petit peu d'émotion, n'est-ce pas ? Donc par Maëlle, ou encore Chimène Badi sur Memory, alors que pourtant elle a fait le rôle, mais pareil, elle disait cette histoire est magnifique et tout, alors qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans Cats, on en a parlé. Et ensuite elle chante Memory, qui soi-disant la touche de fou, et j'ai pas du tout été transportée par sa prestation, mais c'est personnel. Et pareil, j'en ai mis trois en fait, qui m'ont un peu déçue niveau interprétation. Marina Kaye sur Can You Feel the Love Tonight, qui est encore une grande chanson à émotion. Elle a extraordinairement bien chanté, parce que pareil, c'est une grande voix, on peut pas le nier. Je vois des réactions. Mais pareil, elle dormait, quoi. Et à l'inverse, il y en a qui ont hyper bien interprété. Gros crush sur Julie Zenati. sur Julie Zenati. Damien et Cécilia, évidemment. Je suis obligée de faire une petite dédicace quand même. Et d'autres, mais voilà, c'est les deux... Voilà, l'antithèse que j'ai notée, mais voilà, c'est le premier truc qui m'a le plus choqué.
Et je propose qu'on écoute du coup un extrait de Memory par Chimène Badi pour accompagner un peu ça et pour entendre quand même un petit peu de musique.
Oui.
Passe à ton flop 2, du coup, Ambre.
Par contre, elle l'a très bien chanté, hein, je tiens à le dire. C'est très très beau ce qu'on entend là, donc ça va pas avec ce que j'ai dit, parce qu'il faut voir le problème. C'est pas à l'écoute, c'est à l'œil. Bref, flop 2, le côté répétitif des interviews, ça a commencé à être dit tout à l'heure. Vous pensez quoi du site d'action, gna gna gna. Alors, je suis carrément d'accord, il faut en parler, c'est hyper important, bien sûr. Mais faire dire à peu près la même chose à des textes totalement préparés, en plus, c'est sûr qu'avant qu'ils viennent, on leur a dit « préparez vos 2-3 mots sur le site d'action, machin », ça, les gars, non, en fait. Genre, vous le faites dire à une personne sur 3, et encore, ok. Mais là, c'était vraiment tout le monde qui disait la même chose. Franchement, rébarbatif à en mourir, alors qu'on aurait préféré des petites anecdotes. Il y en a eu 2-3, mais il y en a eu très peu. Enfin voilà, des petits trucs sur les comédies musicales et tout autant que le site d'action, c'est hyper important. Mais voilà, un ou deux points suffisaient, je trouve.
Et je suis complètement d'accord sur ce point. C'était, alors pour le coup, c'était encore plus frappant l'an dernier, parce que l'an dernier, ça n'a pas été filmé dans les conditions du direct, mais il y avait moins de coupes pendant les interviews, c'était plus d'une traite. Et en fait, on voyait très bien, encore plus quand on était dans la salle, que tous les artistes qui faisaient leur petit laïus sur le site d'action se mettaient à lire le prompteur à ce moment-là. Et il n'y avait aucun naturel. Et ça avait même tendance à dévendre le discours. Et autant les interventions de Lynn Renault et de Jean-Paul Gaultier sur la question, et même de Nicole Croisy qui a dit à quel point elle avait perdu des amis de cette maladie dans les années 80-90, qu'il ne fallait surtout pas que ça se reproduise, aurait suffi plutôt que effectivement ce côté maintenant c'est le moment où je lis le petit texte qui c'est dommage parce que sur une émission caritative, quand le moment caritatif est le moment le plus ennuyeux de l'émission, ça veut dire que le but il est pas atteint.
Et puis avec des mises en scène parfois, je suis désolée, mais Florent Mott, je l'aime, mais alors quand il prend son téléphone et tout pour faire genre, alors oui, alors attendez, faut envoyer de moi. Alors regardez, je sors mon téléphone de ma veste et puis je tape don et oh là là, j'y arrive pas, mais voilà, et c'est envoyé, ça coûte que 5 euros. Ça se voit qu'ils ont essayé de faire des petites mises en scène pour chacun et tout, et franchement, ça pue la malhonnêteté et le surfait, quoi.
Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, franchement, mon moment émotion de toute l'émission, le vrai moment émotion que j'ai eu, c'est clairement Lynn Renaud à la fin. Moi, elle m'a tiré des larmes.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est vraiment le combat d'une vie pour elle. Ça se sent, c'est investi. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, en fait, parce que parler de comédie musicale pour parler du SIDA Action, il y a un vrai sens parce que le SIDA, ça a beaucoup touché aussi les gens du spectacle, etc. Et typiquement, il y a un truc que j'ai trouvé aberrant, c'est sur Disney. Je trouve ça très chouette d'avoir fait Le Roi Lion, mais moi, pourquoi on n'a pas donné plus de place à soit La Belle et la Bête, soit La Petite Sirène, pour une raison très bête, c'est que c'est Howard Ashman qui a écrit les musiques de ces deux films-là, ce qui a donné la renaissance Disney, a redonné du succès aux films Disney. Ce mec-là, c'était un mec qui venait de Broadway et qui a apporté l'idée qu'on devrait faire des comédies musicales dans les films Disney. Et il est mort du sida avant de voir La Belle et la Bête. Et d'ailleurs, à la fin de La Belle et la Bête, il y a ce carton qui, moi, me tire les larmes à chaque fois, dédié à notre ami Howard, qui a donné sa voix à une sirène et son âme à une bête. Et il est mort avant d'avoir vu ça. Et lui, il est mort du sida. Donc, il y a une vraie histoire un peu consubstantielle quand même, un petit peu, qui aurait pu être un peu plus mobilisée, qu'on voit chez Nicole Croisi, qu'on voit chez Lynn Renaud, mais qu'on voit et qui sonne faux, en fait.
Après,
on ne va pas demander aux autres gens d'avoir perdu des proches du sida. je ne leur souhaite pas. Mais effectivement, essayer d'avoir un truc qui est peut-être un petit qui sonne un peu plus juste, ce serait pas mal.
Amélie.
Après, je pense que, j'ai eu l'impression que ce qu'il disait, c'est que chacun avait un peu choisi la chanson qui leur ressemblait et tout. Alors peut-être qu'on les a un peu aidés à choisir, mais du coup, je pense que c'est pas tant aux artistes qu'il faut en vouloir, mais plus à la prod de France 2 s'il n'y avait pas La Petite Sirène et tout ça, quoi.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être, ou alors mettre en évidence cette histoire-là aussi, ça pouvait être intéressant justement pour ramener la sensibilisation du côté du sida. Parce que c'est vrai que le truc qui est casse-gueule dans ce genre d'émission, c'est qu'à la fois on cherche à divertir le public pour leur dire faites des dons, mais il faut pas perdre de vue en même temps l'objectif premier de la soirée qui est un truc caritatif. Et le risque que ça sonne faux. Alors, on n'était pas non plus au niveau Aya Nakamura qui s'était emmêlé un peu les pinceaux au moment du Téléthon.
Quelle angoisse ce moment.
La pauvre. mais c'est vrai que ça sonnait moyennement juste.
On passe à ton troisième flop 3, Ambre.
Alors, mon troisième flop 3, j'ai presque hésité à le mettre en top au final. C'est le moment Ariel Dombal. Parce que c'est un flop pur et dur, bien évidemment, mais c'est aussi un top parce que c'est le moment faux rire et c'est le moment merci, en fait. C'est le moment où c'est très méchant, hein, mais vraiment, genre, dès qu'elle arrive, je ris. Dans toutes les émissions, hein, je suis fan, en fait. Mais c'est un tel personnage que pour moi, c'est limite un top parce que je la trouve extraordinaire. Je la trouve extraordinaire parce que je crois qu'elle est vraiment comme ça et je suis fan. Mais voilà, ça reste un flop parce que tout va mal. Tout va mal, bien sûr, tout va mal dans ce qu'elle fait. Rien ne va, ni vocalement, ni interprétation. Enfin voilà, ces mouvements, je rêverais qu'il y ait la caméra sur moi pour l'imiter, et que vous le voyez tous, parce que j'adore l'imiter. Mais genre, ces mouvements de bouffe tout le temps comme ça et tout. Genre, mais merci, mais non. Genre non, rentre chez toi.
Eh ben, on va en écouter un extrait tout de suite.
Oh oui!
Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, je vous avais communiqué quel était mon flop 3 et j'avais oublié de la mettre. Aussi. Ouais. Donc, et là, en relisant mes notes, je suis là, oh putain, oui, Ariel Dombal, Ambre la cite. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins occulté ce moment. Je pense que c'est une stratégie de survie. On en avait besoin. Parce que moi, j'étais pas prête non plus pour Ariel Dombal. Et en fait, tu parlais de manque d'interprétation. En fait, elle essaye même pas. En fait, elle chantait donc la chanson d'Evita.
Don't cry for me,
Argentina. Toujours un problème de fond avec le principe d'une comédie musicale centrée sur la femme d'un dictateur, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. elle essaye même pas d'interpréter. Evita, elle interprète elle-même, en fait.
Oui, c'est ça.
La carrière de sa vie, c'est de s'interpréter elle-même, avec visiblement une grosse cataracte au niveau du pour se maquiller comme elle l'a fait. C'est hallucinant. Elle est hallucinante.
Mais elle est incroyable. Elle est magique.
Non, je disais juste, il n'y en a pas deux comme elle.
Ah, ah oui, c'est sûr. C'est le moment où j'ai regardé le timing de l'émission en me disant, souvent dans les émissions de variété, il y a un basculement du moment où on passe les artistes un peu de premier plan, un peu en promo, un peu... Et puis ensuite, on se rend compte qu'il a fallu remplir le reste des 2h30 et que là, on a mis des gens, on ne sait pas pourquoi ils viennent là, on ne sait pas pourquoi ils chantent ça, et je pense que le basculement, c'est là. parce qu'après, il y a eu Marina Kaye qui a chanté « Can you feel the love tonight ?» ce qui a été voilà. Très bien. Mais je me suis dit, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vue à la télé. Elle n'est pas même en promo. Plus, elle n'a pas, pas sorti d'album récemment. Donc, j'ai trouvé ça hyper surprenant aussi. La fin, le programme de fin de cette émission avec la petite carotte du bout de Daniel Lévy était hyper surprenant. Mais Ariel Dombal, moi, je l'adore aussi. J'écoute très souvent les Grosses Têtes et je l'adore aux Grosses Têtes parce qu'elle a ce personnage, mais qui, je pense, est en bonne partie elle-même. Oui. C'est à la fois terrible et très attachant.
Et à la fois, c'est un beau message à envoyer aux gens de dire vous pouvez faire carrière en ayant pour rôle principal d'être vous-même.
Oui.
C'est chouette.
Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui? C'est moins sûr.
Mais c'était quand même vraiment très, très gênant.
Oui.
On était quand même d'accord collectivement que c'était gênant.
Ah, c'était gênant. Ouais. Parce que les danseurs étaient gênés aussi. C'est ça qui me tuait de rire, moi. C'est que je voyais dans leurs yeux, en plus j'en connais un peu, je voyais le truc de magique.
On continue nos petits flop 3. Qui veut s'y coller? Amélie, est-ce que tu veux passer à ton flop
Allez.
3
Alors, je ne vais pas épiloguer parce que je rejoins Ambre sur le manque d'interprétation. Je l'ai déjà un petit peu développé aussi moi-même, voilà, ce côté par-dessus la jambe, ça m'a un peu saoulée, à l'exception de certains, dont Loïc Noté, que je ne connais pas particulièrement, je ne connais pas son passif et tout, mais je l'ai trouvé d'une énergie incroyable sur Footloose, vraiment on voyait qu'il était dedans et tout. Alors là, on aurait presque oublié qu'il n'y avait personne en face, quoi, parce que vraiment, on aurait dit qu'il faisait son show pour quelqu'un, enfin... Donc, vraiment incroyable. Moi, j'ai accroché direct.
Eh bien, on va écouter un petit extrait de Loïc Noté sur Footloose.
Eh bien, c'est parti.
Voilà pour la prestation de Loïc Noté dans Footloose.
Et encore, là, on ne voit pas beaucoup, hein, parce que c'est surtout sur la fin où on sent même dans sa voix à quel point il est essoufflé, parce qu'il danse partout. Alors, après, effectivement, c'est plus facile de faire ça sur Footloose que sur Can You Feel the Love Tonight, on l'admet. Oui. Mais franchement, on voit qu'il est investi, ah. donc
c'est ouais, cool. C'est rafraîchissant, je suis d'accord. Ouais.
Voilà, le deuxième gros flop pour moi... en fait, on en a déjà un peu parlé et je sais pas comment dire tout ça en même temps, mais en gros, c'est le comportement de la présentatrice, les magnétos qui sont lancés un peu, ou les nouveaux invités hein, qui sont là en mode ah, tiens, vous dites ça, ah, c'est marrant parce que voici machin. Donc, enfin, un manque cruel. Mais remarque, ça, c'est assez fidèle aux comédies musicales un peu nulles comme Belle, 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 où du coup, on fait genre oh, tu as vu, il est là ce soir. Il est là ce soir. Donc, finalement, c'est un bel hommage. Mais voilà, enfin, je trouvais que, voilà, il manquait une cohérence globale voilà, je sais pas comment appeler tout ce truc, mais voilà, la présentation, les artistes, enfin, ouais, le concept, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le gros point noir. Et alors, ce qui est très dommage, c'est quand même, on dit 100 ans de comédie musicale, etc. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'historique, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'explication d'où venait la comédie musicale. Est-ce que c'est plutôt importé de Broadway et qu'après c'est arrivé en France? En fait, on n'a pas du tout de référence, ni historique, ni quoi que ce soit. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je sais que c'est du divertissement, mais après, soit on appelle ça style d'action en musique, soit on appelle ça 100 ans de comédie musicale, mais du coup, on en fait vraiment un truc en mode c'est les 100 ans. Donc, voilà, il y a juste eu un espèce de petit moment où on a parlé des revues et des opérettes, mais sinon globalement que dalle.
Et d'ailleurs, voilà, la seule chose qu'on nous a dite sur l'histoire des comédies musicales, c'est ça vient de l'opérette, sauf que c'est loin d'être aussi simple que ça et aussi basique que ça. C'est-à-dire que non, en France, la comédie musicale ne vient pas que de l'opérette, ça vient aussi de l'opéra, ça vient aussi de l'opéra rock et des concept albums, et ça vient aussi des spectacles de Broadway. Mais c'est vrai que bah, y a eu ce petit moment. Alors si vous voulez, on peut écouter un petit bout, parce que j'ai isolé le magnéto, du moment où on a dit bah, ça nous vient de l'opérette, ça nous vient de Luis Mariano, et donc on a eu un extrait. C'est pareil, c'est dans la fin de l'émission où on sent qu'il se... Soit ils se lâchent, soit ils essaient de combler. On a eu 4 minutes de Magneto Luis Mariano.
On a chanté les parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du nord, on le sent chaud. Et bien que les américaines soient les
Et j'ai coupé la parole à quelqu'un au moment de lancer le son. Je sais pas à qui.
Ah, moi, c'était moi qui interjectais en disant que c'était chiant et que c'était long ce magnéto sur Luis Mariano. Enfin, en soi, parler de Luis Mariano, c'est... Oui, pourquoi pas. Mais c'était long. Enfin, effectivement, il y avait un vide à combler, quoi.
Et puis surtout, tous les extraits venaient de la même émission qui était le grand show Luis Mariano qu'il y a eu il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus, sur France 2. Tout venait de cette même émission.
Ouais, mais je pense qu'il y avait un peu une histoire de replaçons les droits, enfin replaçons les vidéos sur lesquelles on a des droits, et du coup, je sais pas exactement, mais ça devait être en fait déjà des émissions France 2 en fait. Ouais. Donc,
Tous les magnétos qu'il y a eu, c'était soit l'an dernier à Starmania, soit les grands shows présentés par Drucker, soit encore plus avant les émissions spéciales chansons françaises qui étaient présentées par Daniela Lombroso. La plupart des extraits, c'est ces trucs-là, et je crois qu'on a dû voir un ou deux extraits venus d'autres chaînes, mais pas grand-chose d'autre.
Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a une question de droit, quoi.
Ouais.
Et juste, j'ai un quatrième flop. Où est Merwan Rim?
Alors, Merwan Rim, il est en train de préparer un spectacle sur les comédies musicales. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, cette info... C'était... mais il y a une tournée un peu à la manière de H-Tendre, de Star 80 et de tous ces trucs-là. Eh bien, il y a une tournée des comédies musicales qui va avoir lieu, je crois que ça commence en 2021, avec Damien Sarg, Priscilla Betty, avec Ginny Lynn, avec Cecilia Cara aussi, et avec Merwan Rim.
Et Gwendal Marimoutou.
Et Gwendal Marimoutou qui a été le dernier artiste à être révélé dans le line-up. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce spectacle, à mon avis.
D'ailleurs, Gwendal Marimoutou, si, chers auditeurs, vous n'avez pas eu l'occasion, on l'a interviewé il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez le retrouver dans tous nos épisodes, voilà, sur toutes les plateformes.
C'est un bel instant en promo. on continue sur les flops 3. Virginie, tu veux y aller?
Ouais, je vais y aller, ça va être rapide, pour la bonne et simple raison que déjà j'en ai traité un, puisque j'ai déjà dit ce que j'avais sur le cœur à propos d'Ariel Dombal. Donc je ne vais pas revenir dessus. Clairement, ouais, je suis un peu d'accord avec Ambre, c'est ce flop qui est so bad it's good, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais ça a eu le mérite au moins de réveiller un moment dans cette soirée. Oh, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et l'autre, un autre flop, je rejoins aussi Ambre, c'est Maëlle. En fait, moi, j'ai pas du tout aimé cette intensité-là, en fait, qu'elle mettait. En fait, point vieille, je connais pas Maëlle. Moi, je sais pas qui c'est. Enfin, il y en a plein dans cette soirée, je ne sais pas qui c'était. Hein. Enfin, bon, bah voilà, je devrais arrêter d'écouter. D'écouter Fleetwood Mac et essayer d'écouter des trucs mais voilà, je connais pas Maëlle, mais j'avais un regard frais, je connaissais pas Loïc Noté non plus, j'ai eu un regard frais, j'ai trouvé que c'était je trouvais que Loïc Noté quand il chantait, honnêtement il y a des moments où je trouvais un peu cringe, mais il avait une intensité qui allait bien avec la chanson, il l'interprétait, on voyait qu'il y mettait du cœur. Je pense que Maëlle y mettait du cœur aussi, mais qu'elle n'arrivait pas trop à bien placer son intensité, ce qui est souvent un problème avec les chansons de Starmania, et beaucoup de difficultés à essayer de placer correctement les moments et là j'avais vraiment l'impression d'une audition nouvelle star, quoi, donc ça m'a j'ai pas trop aimé. Oui, Amélie.
Ouais, non, j'abonde dans votre sens, parce que j'ai trouvé pas qu'elle savait pas gérer son intensité, mais que ça en manquait. Enfin, c'est même pas une question d'intensité, c'était une question de caractère, parce que comme le disait Ambre, en fait, c'était très linéaire et du coup, déjà, elle n'a pas fait de variation au cœur de la chanson. C'est-à-dire que tous les refrains étaient les mêmes, tous les couplets étaient les mêmes. Et Julien n'est pas trop d'accord.
Mais j'y reviendrai.
On n'écoute pas le magnéto de Maëlle maintenant parce qu'il veut le mettre plus tard, je pense.
Ah non, j'allais proposer de l'écouter tout de suite.
Ah bah ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais.
Ah bah allons-y.
J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
Voilà pour le début, en tout cas, de l'intervention de Maëlle.
Après, je ne vais pas en jeter plus, parce que ce n'est pas non plus une détestation profonde. Juste, moi, elle est un peu hors sujet.
Ouais.
L'autre flop, c'est Patrick Bruel. Je ne vais pas revenir sur le fait que, oui, je trouve problématique de l'inviter. Bon, côté bien-pensant, sans doute, on ne peut plus rien dire. Mais par ailleurs, en fait, je trouve que... Il arrive sur l'opéra de Katsu. J'ai eu l'impression qu'en fait, il refaisait son album entre deux, qu'il avait sorti au début des années 2000. Hein, la complainte,
oui, c'est ça, ouais.
Mon amant de 5 ans.
Ouais.
J'aime beaucoup, hein, Mon amant de 5 ans. Je le trouvais super sympa qu'il fasse cet album. C'était charmant à l'époque. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Et je trouve que ça dénote un cruel manque de renouvellement de sa part. Et du coup, ça m'a un peu emmerdée. Voilà. J'avais l'impression qu'en fait, lui, c'était « Not sure if émission spéciale SIDA ou les enfoirés ». Donc en fait, ça m'a pas mal ennuyée. Voilà. Et allez, je rajoute quand même un autre petit point, mais c'est une authentique question. Je me doute que comme c'était un truc pas fait en direct et que c'était à la Maritier Gilbert Carpentier, c'est moi ou Daniel Lévy, c'était un playback très très sale.
Ah non,
non.
Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il avait peut-être enregistré la chanson auparavant, avec d'ailleurs du mal à placer certaines notes, etc. Mais que sur le plateau, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage. Alors, c'est moi ou c'est ma télé qui a déconné, ou c'est vrai?
Non, je pense que c'était du direct, hein. Enfin, du live.
Ah, clairement, il a quaqué. C'était clairement live. Oui, même, je suis étonnée qu'il l'ait...
Ouais, c'est une vraie question, parce que je me suis dit, à la fois, il a quaqué, et je me suis dit, il y avait des moments où il y avait un décalage, donc ça, c'était ma télé, ok, il n'y a pas de problème, c'était juste que je voulais vérifier.
Alors, il arrive, je ne citerai pas d'artiste en particulier, mais il arrive que les prestations en live lors des enregistrements sont tellement mauvaises que c'est l'inverse qui se fait, c'est-à-dire que les artistes reviennent en studio après... pour faire leur propre doublage. Moi, c'est arrivé sur une émission sur laquelle j'avais fait un reportage et on m'avait dit surtout, ne diffuse pas le son j'avais branché mon enregistreur sur la régie pour prendre le son, et on m'a dit ne diffuse pas ça parce qu'on va le réenregistrer demain. Voilà. Et je vous dirai hors antenne de qui il s'agit.
Ça lui fait pour Daniel Lévy parce que waouh.
Ouais, enfin, mais alors s'il a quaqué, c'est vrai que du coup, ce serait bizarre d'avoir laissé passer ce petit moment.
Moi, je suis étonnée qu'il l'ait pas peur. Ouais.
Mais en fait, peut-être que c'est juste une question de temps et qu'en fait, ils auraient dû le réenregistrer et qu'après, du coup, il y a eu le confinement.
C'est possible. Mais quand même, pour sa gouverne, la chanson, elle est inchantable.
Il a
20 ans de plus. Les cordes vocales, elles vieillissent et la chanson, elle est hyper dure. Donc, enfin, voilà, Daniel Lévy.
Oui, mais dans ces cas-là, ne le faisons pas chanter ça, quoi. Parce que vraiment,
tu veux qu'il chante quoi d'autre ?
Après, oui, parce que je trouve qu'il y a plusieurs artistes qui ont rechanté leurs chansons d'il y a 20 ans et qui ne replaçaient pas les notes de la même manière. Alors, Cécilia Cara, pour ne citer qu'elle, et on en reparlera, a adopté une technique complètement différente qui est de chanter différemment la chanson, ce que j'ai trouvé magnifique. C'est une bonne idée, en fait. Mais je trouve ça, en fait, assez touchant. Dans ce genre d'émission hommage, de montrer que ces acteurs, ces comédiens, ces chanteurs, ils ont pris un peu de la bouteille. Et ça montre quelque chose aussi sur le temps qui passe. Et je trouve ça chouette. En fait, je trouve ça humanise un peu les choses. Ouais.
Ambre.
Et justement, sur ce tableau-là, dont on va bien sûr reparler, je trouve qu'ils avaient une vraie volonté de créer tous les deux, juste avant que ça démarre. Je ne sais pas si vous avez entendu Damien dire « Ah ça, je pourrais le faire comme ça, machin et tout ». Et ça trop mignon, je me suis dit mais c'est génial qu'ils fassent ça, ils ont trop raison, ça fait des années qu'ils n'ont pas chanté ensemble, ils ont envie de faire plaisir aux gens, ils font des nouveaux petits trucs, ils cherchent, ils créent, merci en fait, c'est ce qu'on voulait en fait dans cette émission, un peu.
Mais justement, je trouve que c'est la moindre des choses, on ne t'a pas vu depuis 20 ans, c'est la moindre des choses de si tu reviens en plateau et si tu fais absolument cette chanson, parce que bon, dans les 10 commandements, il y en a d'autres, mais bon, admettons que tu fais celle-là, et bah du coup... c'est aussi ton rôle. Si tu sais que tu ne vas pas les passer les notes, eh ben, tu essaies de t'arranger pour changer la mélodie. Enfin, voilà, y a des tas de gens qui le font et ce n'est pas grave, en fait. Au contraire, je trouve que c'est plus honnête. Alors que là, mais moi, j'étais déçue en plus. Enfin, surtout que c'est une chanson qui est quand même très émotionnelle et très... Enfin, moi, normalement, elle m'aurait fait chialer, quoi. Surtout que j'adore les 10 commandements. Et là, en fait, je n'arrivais même pas à être émue tellement j'étais...
Oh, je vous trouve dur quand même, c'était pas indigne.
Bah, moi j'ai vraiment pas accroché.
J'avais juste un peu mal pour lui, mais c'est tout, il a pas non plus, voilà, moi j'étais surtout triste en fait de me dire oh merde le pauvre, c'est pas non plus pas
moi je suis sans pitié.
Je trouvais touchant que c'est quelqu'un qui n'a pas rechanté depuis longtemps, qui vienne comme ça l'affaire, il y avait un côté généreux aussi, c'est quelqu'un qui a pas forcément qui a... Il a une actualité récente, Daniel Lévy, je crois.
Pas trop. Ouais,
je pense pas.
C'était vraiment le pur acte de « Ouais, je vais venir chanter telle envie d'aimer à cette émission sur les comédies musicales » parce que c'est une des chansons les plus cultes des comédies musicales françaises. Ça fait 18 ans que j'ai pas dû la chanter, mais je vais le faire. Ça me fait plaisir de le faire. Là, pour le coup, il y avait un vrai geste donné pour le sida. Ça me fait plaisir de venir faire ça pour faire venir du public devant cette émission.
Ah oui, non, mais... En soi, ça doit être très gentil. Hein. Je ne remets pas en cause la personnalité de Daniel Lévy. Juste sa voix.
Ça ne faisait pas si longtemps qu'il l'avait chanté. Hein. Je me souviens au plus tard d'une émission en 2012 où j'étais là.
En 2012, d'accord.
Bon, ça fait quand même 8 ans, mais je pense qu'il l'a rechanté depuis, dans des concerts et des trucs et tout. Mais en tout cas, il y a eu une émission en 2012 sur ça.
Je vous propose qu'on écoute un petit bout de cette prestation, justement.
Ah bah oui, il faut...
C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine
je trouve ça pas si mal. Hein.
Ouais, on est un peu vache.
Ouais. On est un peu vache. Mais en fait, ouais, moi, c'est ce que je me demandais. C'est évident que c'était chanté. En fait, je pensais qu'il avait peut-être fait une Britney Spears. Que peut-être ça avait, voilà, c'est qu'il avait enregistré avant. Et enfin, je sais pas, j'ai eu un bug sur ma télé, visiblement. Mais sinon, le fait que sa voix, elle quoique, ça humanise la chose.
C'est humain, voilà.
Ouais.
Voilà.
Voilà. Il te restait un flop 3, je crois.
Il reste le flop 3
oui.
De Julien. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus déçu de cette soirée?
Alors, en première position de ce flop, moi j'ai mis la réalisation de l'émission. Parce que j'ai trouvé que ça manquait de chaleur, ça manquait de naturel. C'était trop écrit, trop. Même les plans. Alors que c'est pas vrai, hein, je pense que les plans avec, où on voit le réalisateur, où on voit les derniers préparatifs, tout ça, c'est du pris sur le moment. Mais c'était tellement propre et tellement léché que tout faisait fake. Et du coup, pas live. Du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis demandé s'il n'y en avait pas certains qui chantaient en playback. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Et j'abonde dans votre sens aussi sur la présentation. Ça fait 2 années d'affilée que ce sont des journalistes qui se voient confier la présentation de cette émission. Puisque donc, l'an dernier, c'était Julien Bugier. Cette année, c'est Marie-Sophie Lacaro. Les deux sont des présentateurs du journal de France 2. J'ai aucun souci, et bien au contraire, avec le principe des animateurs journalistes. Des animateurs journalistes, exactement. Au contraire, j'adore cette idée, mais dans ce cas-là, il faut accepter de changer de ton quand on passe de l'un à l'autre. Et l'an dernier, avec Julien Bugier, c'était encore plus visible. On avait vraiment l'impression qu'il présentait le 20h en présentant les numéros de Starmania. Et là, il y avait quelque chose qui manquait cruellement de chaleur dans la façon dont les différents numéros étaient amenés. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Elle était plus naturelle quand elle... Enfin, naturelle, en tout cas, ça passait mieux dans les moments face caméra où elle lançait les magnétos, les appels aux dons, où finalement, ça ressemble plus à ce qu'on lui demande de faire en général. Donc, j'étais un peu embêté par rapport à ce manque de naturel, de chaleur, de live, l'absence de public, tout ça. J'ai vraiment eu un problème avec ça. J'ai vraiment eu un problème là-dessus ou un problème avec ça. Est-ce que je pense correct ?
Ouais, avec Chantal là-dessous, mais ça n'a pas de faux rapport.
Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Pardon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'imitation, tiens.
Ah, ça nous manquait, tiens.
Deuxième de ce flop 2, pour moi, c'est un petit paquet de morceaux qui, pour moi, n'avaient rien à faire là. Je comprends qu'ils sont associés à des comédies musicales, mais ce sont pas au sens strict du terme des morceaux de comédie musicale. Donc pour moi, il y a dans ce paquet-là L'amour brille sous les étoiles, qui effectivement a été monté en comédie musicale, mais c'est avant tout une musique de film qui n'est pas au sens propre une comédie musicale, même si j'adore les chansons du Roi Lion, même si je veux dire c'est mon Disney, c'est un de mes Disney préférés, donc j'étais content de l'entendre. J'ai trouvé ça bizarre. Oui, Virginie.
En fait, je me dis, à la fois, je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs qui n'avaient rien à faire là. Mais l'amour, oui, sous les étoiles, ça rejoint un petit peu ce truc que c'est ce moment où Disney s'inspirait vachement de l'univers de la comédie musicale. Ça a commencé avec H1, mais ça a continué avec Mangan, ces emprunts à Broadway quand même, ce qui fait que le dessin animé s'est retrouvé ensuite à Broadway, d'ailleurs.
Oui. Alors c'est vrai, mais dans ce cas-là, il aurait fallu peut-être plus l'introduire.
Exactement, ça voilà. C'est un problème de magnéto aussi et de pédagogie dans l'émission, ce que disait Amélie tout à l'heure d'ailleurs.
De contextualisation, puisque le mot est à la mode. dans le même lot, je mets Moulin Rouge, Lady Marmelade, qui en plus a été chantée dans sa version d'avant, puisque... Les premières paroles, c'est « Ils mettent Marmalade down in old Moulin Rouge », dans la version du Moulin Rouge. Et là, elle a chanté, je crois que c'est New Orleans.
New Orleans, ouais.
Et elle a chanté ça. Donc, elle l'a chanté à la façon de... mince, qui chantait ça à l'époque?
C'est pas Sister Sledge ou un truc comme ça?
Je suis pas sûr. Encore une fois, je crois que c'est ça. C'est Sister Sledge.
Rien ?
Oui.
Oui, rien, c'est sûr, rien.
Ça me semble.
Non, Patti LaBelle, non, sinon.
Oui, c'est ça, Patti LaBelle. Et je propose qu'on écoute d'ailleurs ce petit bout d'Angoon qui chante Lady Marmelade, si vous voulez. Et la dernière chanson que je mettrai dans ce petit paquet, et pour moi la pire, c'est I Will Survive.
Je savais que t'allais dire ça.
Et présentée comme une chanson de Priscilla Folle du Désert, sauf que Priscilla Folle du Désert, c'est un jukebox musical. Et donc, à ce compte-là, on pouvait nous mettre Dancing Queen et on pouvait nous mettre Bohemian Rhapsody parce qu'il y a eu Mamma Mia et We Will Rock You. Donc, j'ai trouvé ça. Et c'est dommage parce que la prestation de Bilal Hassani sur cette chanson, elle était vachement bien. Mais moi j'adore Bilal Hassani, et d'ailleurs l'an dernier il avait fait une chanson de Ziggy dans l'émission Starmania qui était géniale, donc en soi c'était bien, mais j'ai trouvé que c'était pas raccord avec la thématique de la soirée et que ça faisait un peu il faut qu'on mette des tubes, donc on va mettre ce truc là même si c'est à 50% une chanson de comédie musicale, voilà. Et mon troisième, flop 3, est-ce que j'ai le droit d'en faire 4 parce que je me rends compte qu'en 3, en fait, j'ai mis deux trucs que j'avais mis dans le même paquet mais qui ne sont pas exactement pareils.
Non.
Mais
non, on est très conservateurs, tu n'as pas le droit. Le top 3, flop 3, dans le générique, c'est pas dit top 4, flop 4, donc désolé, bien, tu as le droit.
De... Un regroupement. Ah, je n'aime pas cet aspect-là qui entraîne cet aspect-là.
Bah, c'est ce que j'avais marqué, en fait. Du coup, j'ai essayé de le présenter comme ça.
Et ton top 4, ton flop 4.
Mon flop 3, donc, voilà. Hein. c'est globalement un côté très cliché. Quelqu'un qui n'aime pas forcément les comédies musicales va être conforté dans son idée et dans son cliché des comédies musicales. Donc, effectivement, c'était ce qu'on attendait, l'ouverture sur New York, New York, avec les danseuses du Moulin Rouge. Oui, alors tout était trop évident. Et moi, ce qui m'a hérissé toute l'émission, c'était que dès qu'on n'était plus en coulisses, dès qu'on n'était plus sur scène et qu'on était en coulisses dans les petits passages d'interview, toutes ces choses-là, on avait des petits instrus très Broadway, donc qui venaient de part et d'autre des différentes comédies musicales. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était cette compile comédie musicale Les Grands Airs avec les noms des spectacles écrits en néon qu'on trouvait en CD à la fin des années 90. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et en même temps, il y a des choses... que moi j'aurais adoré voir. Enfin, j'ai été très déçu que pour Notre-Dame de Paris, on n'ait pas Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori qui viennent chanter Belle. J'ai été un petit peu déçu de ça.
Mais les frontières canadiennes étaient fermées déjà.
C'est possible que ce soit ça. Hein. Quoique Garou est en France, puisqu'il a présenté des émissions sur France 2 il n'y a pas si longtemps.
Daniel Lavoie aussi.
C'est moins sûr.
Mais en plus, moi, j'étais déçue que Julie Zenati chante cette chanson. Et je veux poser tout de suite la question parce que je vais oublier sinon. J'ai revérifié, moi, sur Wikipédia, donc ce n'est pas une source fiable. Sinon, auditeurs, si vous avez des informations concrètes, dites-le nous. Ou alors, si elle a jamais joué Esmeralda.
Eh bien, je crois qu'en vrai, si.
Parce que, par exemple, dans Wikipédia, il lui attribue jamais Esmeralda. Hein.
Je ne sais plus où
elle l'a fait des fois en backup, je ne sais rien, mais j'ai pas l'impression que... Enfin, bon.
En fait, quand elle est partie jouer son rôle au Québec, qui a finalement été repris par Natacha Saint-Pierre, et quand elle est revenue en France, elle a repris le rôle en alternance avec Hélène Ségara, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, elle l'a joué, oui, plus en doublure. Oui, Ambre.
Après, au pire, si elle ne l'a pas joué, c'est bien, non? Justement, c'est ce que vous vouliez, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de vouloir voir des nouvelles choses et tout. Ouais. Donc, ça peut être cool que Fleur de Lys chante Vivre.
Mais Vivre, elle est chiante comme chanson. Moi, j'aurais aimé qu'elle chante La Monture parce que j'adore quand Julie Zenati chante La Monture. Mais par contre, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, Ambre, quand elle a chanté Vivre, finalement, elle m'a presque fait aimer la chanson qui est une de celles que je trouve la plus chiante du spectacle. Donc, Julie Zenati, quand elle chante, c'est formidable.
C'était super.
Et du coup, de ça découle, et ce n'est pas mon quatrième point, ça découle de ça, une absence totale, mais totale, de prise de risque et d'inventivité quand il s'agit des comédies musicales françaises. À l'exception du Monde est Stone, où il y a eu une proposition musicale pas forcément heureuse, mais au moins différente, tout le reste, on nous a servi les instrumentaux exacts des spectacles.
Ouais.
Alors que tout le reste a été réarrangé, réorchestré, un peu modernisé. Et là, j'aurais bien aimé voir une version différente de Aimer, de L'envie d'aimer. Et finalement, c'était vraiment comme une prestation d'émission de variété classique. Oui, Ambre, tu lèves la main.
Si je ne m'abuse, parce que je l'ai noté justement après dans mes tops un peu, l'arrangement de la Sa Symphonie, il y en avait un. C'était beaucoup plus rock que dans le spectacle avec les musiques. Etc., c'était beaucoup plus punchy et tout.
Alors, j'ai l'impression, je me suis posé la question, je pense que les musiciens qui étaient là ont joué sur la bande-son du spectacle. Donc, ils ont rajouté une couche. Ouais.
Mais en tout cas, du coup, le tout faisait quand même plus rock et différent et nouveau.
C'est vrai.
Complètement.
Voilà, cette fois, j'ai fait le tour de mon flop 3. Et si vous voulez, on peut écouter un petit bout de la Sa Symphonie pour ponctuer ça.
Allez.
Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommant ta honnie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il
Voilà, vous irez en story sur le compte des Rois du Monde des Stones pour voir que cette chanson a déchaîné les foules. Mais c'est vrai que oui, la batterie et la guitare sont un peu différentes.
Mais nous sommes les foules.
C'est une petite foule, mais une foule quand même.
Ah, to the crowd.
Depuis le déconfinement, la notion de foule a beaucoup changé.
We are not fools.
On passe au top 4, au top 3, pardon. ça y est, j'ai complètement brouillé les pistes.
Nouvelle version.
Top 3, et on va partir avec Amélie, tiens, par exemple.
Alors, dans mes top 3, du coup, c'est un peu en miroir avec ce que j'ai mis en flop, le manque d'interprétation. Du coup, en miroir, j'ai mis Véronique Ticker pour All That Jazz de Chicago. Parce que justement, elle n'est pas du tout de ce monde-là. Enfin, elle est quand même du monde de l'interprétation, etc. Et de l'interprétation chantée. Donc, c'est quand même un peu son dada. Mais elle n'est pas chanteuse de comédie musicale. Et pourtant, je l'ai sentie hyper investie. Elle a giga interprété le truc. En plus, je trouvais ça couillu d'être habillée comme ça et tout. Enfin, donc moi, total love. Pour cette chanson. Et Julien, je crois que tu vas nous mettre un petit extrait.
Ouais, avant de mettre l'extrait, juste petit fun fact concernant Véronique Dicker, c'est que c'est elle qui a fait la VF de Roxy pour le film Chicago. Donc en fait, elle a quand même une histoire avec Chicago.
Ah, je ne savais pas du tout.
Voilà.
Stylé.
Et du coup, je lance l'extrait, pardon.
C'était juste ce que je voulais dire.
Babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the
c'est vrai que finalement, on ne connaît pas beaucoup sa voix, Véronique Dicker, parce qu'elle fait celle des autres. Mais quand elle chante en tant qu'elle-même, c'est vachement bien.
Ouais, carrément.
Chanteuse.
Pardon.
Je disais juste que c'était une très, très grande chanteuse pour faire ce qu'elle est capable de faire, même en imitation. Mm. Elle sait tout faire, donc...
Ah oui, oui, complètement. Voilà, mon deuxième top. Je ne sais pas comment je vais l'arranger. On va dire que je vais en mettre deux face à face qui n'ont rien à voir, mais c'est histoire de faire un top 4. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas la visio, mais nous, on a Ambre qui fait des trucs de chat. C'est un peu déconcentrant. Regardez son...
C'est 4, ça m'a... Non, mais c'est Romy. J'ai mon chat à côté de moi qui me bat.
Et qu'on vient d'entendre.
Oui, elle n'est pas contente.
Du coup, deux interprétations que j'ai beaucoup aimées. Florent Motte, donc on a déjà dit, mais alors... voilà, j'ai beaucoup aimé sa réinterprétation de la 16 symphonie. Je l'ai trouvée interprétée et je l'ai trouvée voilà, un peu changeante. En plus, lui, il était du coup, je ne sais pas si c'était, il était à la basse ou à la guitare électrique.
J'ai pas fait gaffe si c'était la basse ou la guitare. Pour moi, c'était la guitare, mais peut-être que c'était la basse. J'ai pas fait attention.
J'ai un doute, mais en tout cas, voilà, j'étais avec un instrument de type à cordes. Voilà, et non, c'était très chouette. Et puis bon, c'est... je ne boude pas mon plaisir quand il s'agit de voir Florent Motte. et mon deuxième plaisir que je ne boude pas, c'est Damien Sargue avec Cécilia Cara. Voilà, j'ai trouvé leur réinterprétation très chouette, comme on disait tout à l'heure. Je ne vais pas épiloguer dessus, mais voilà, ils ont refait des petites, enfin ils ont changé des notes, voilà, changé leur interprétation, etc. Et toujours réussi à se mettre quand même Alors, je pense que c'est plus facile pour eux, hein, parce que c'est leur propre comédie musicale, mais en tout cas, ils arrivent à se mettre dans les enjeux précis de ce moment-là, alors qu'ils ne sont pas en pleine comédie musicale. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette.
Je propose qu'on se le garde sous le coude pour la fin, pour écouter ce petit extrait-là en dernier. Je fais juste une micro-parenthèse sur le passage avec Florent Motte. On a vu, les seuls moments de spectacle qu'on a vu, c'est quand ils montraient à des artistes qui ont fait des comédies musicales des bouts de leur spectacle. Et du coup, on a vu un bout de la Sa Symphonie sur scène. Et moi, ça m'a juste refait penser à quel point cette chanson, quand elle était sur scène avec rien en mise en scène, était puissante. Je suis allé revoir la vidéo sur YouTube de cet extrait du spectacle et c'est absolument dingue. Et Florent Motte est excellent sur ce rôle et sur cette chanson.
Ouais. Vraiment, Florent Motte, love quand tu veux pour une interview. Hein. Et du coup, mon troisième top, et pas des moindres, alors là, je m'écarte un peu plus du domaine comédie musicale, mais en fait, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on est sur France 2, une personne travestie, enfin deux même, Bilal Hassani, du coup, qui se travestit de manière très régulière et presque quotidienne, mais du coup, d'avoir ça sur France 2, je trouve ça intéressant comme message, en fait, ce que ça peut renvoyer et ce que ça peut donner pour les jeunes générations. Voilà, donc j'ai bien aimé. J'ai pas aimé forcément tout le truc, voilà, I Will Survive et tout, la choré, je la trouvais un peu de briques et de broc et un peu raccrochée n'importe comment. Enfin, j'ai pas trop aimé. Mais en tout cas, voilà, le fait que puisse y avoir Bilal Hassani en prime time sur France 2, voilà, j'ai trouvé ça très chouette.
Alors, pour le coup, je vais dans le même sens et je nuance un peu, puisque France 2 est quand même le plus gros soutien de Bilal Hassani, puisque c'est sur France 2 qu'il a été choisi comme candidat pour l'Eurovision.
Pour l'Eurovision.
Il a eu un documentaire qui lui a été consacré au moment de l'Eurovision et que depuis, on le retrouve très, très souvent dans les émissions. Il était encore en plateau avec Stéphane Bern pour l'émission sur l'absence d'Eurovision de cette année. Pardon, on a fait les trois, du coup j'attendais le quatrième, mais en fait non. Virginie, tu veux faire le top 3?
Ouais, bah je vais enchaîner un peu avec ce qu'a dit Amélie en allant un petit peu dans son sens. Alors c'est pas dans un ordre particulier parce que je crois qu'en numéro 1, moi je mettrais Bilal Hassani. Donc je vais commencer par ça parce que Amélie venait d'en parler et que ça nous permettra peut-être d'en écouter un petit extrait. En fait, je rejoins Julien sur le fait que I Will Survive, c'est d'abord un tube disco, c'est Gloria Gaynor, et ça vient d'un jukebox musical, donc c'est un peu tiré par les cheveux, c'était un peu facilement pour mettre un tube. qui a doublement cartonné déjà en tant que tube disco et en tant que France 98. Donc bon, c'était un peu facile. Mais après, je trouve que de toute évidence, Bilal Hassani, c'est quand même un artiste qui nous parle aussi beaucoup par son parcours et que ça fait écho à son parcours de toute façon. Le côté I will survive, victime de harcèlement, etc. Et que par ailleurs, en fait, que ce soit dérivé de Priscilla Folle du désert, ça rajoute un côté hyper camp que moi j'ai trouvé super, genre ce côté donc très outré, très gay flashy outré, en fait, c'est ça la culture un petit peu camp. Je massacre le concept à coup de serre, je suis désolée, mais c'est pour dire les choses simplement. Et donc, en fait, c'est le moment où on se réveille un petit peu, là aussi, c'est comme un peu avec Ariel Dombal, qui a un côté camp, elle toute seule, d'ailleurs. C'est l'autre moment où moi, je me suis vraiment réveillée aussi pendant le spectacle, où je me suis amusée. J'ai trouvé qu'il était fun, j'ai trouvé que, malgré tout, il restait dans un registre, effectivement, du travestissement, etc., mais quand même avec les chorégraphies, il devait sortir un peu de sa zone de confort quand même, et donc ça m'a fait un peu plaisir pour ça, parce que ça manquait un peu justement de gens qui sortent de leur zone de confort cette soirée, et donc j'ai trouvé ça assez réjouissant, même si ça m'a saoulé ce choix de chanson, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé.
On l'écoute.
Voilà.
Allons-y. I was petrified, kept thinking I can never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how'd you do me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave the key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not a welcome anymore. C'est effectivement vachement bien, ouais.
Mais en fait, ce qui est chouette, on n'arrête pas de parler du fait qu'il n'y avait pas de public et que les mecs, il y en avait certains qui étaient là, on sentait qu'ils étaient là pour être là, etc. Et un peu comme pour Loïc Notet, alors c'est peut-être un effet de la jeunesse, hein, mais on sent qu'il avait vraiment envie d'être là, qu'il avait vraiment envie de chanter cette chanson, qu'il aimait toute son âme, quoi. Ça fait plaisir.
C'est vrai.
Voilà. Donc, cœur, bisous, Bilal Hassani, on l'aime, ce petit. L'autre top, alors... Les magnétos, ils étaient un peu mal branlés parce que c'était quand même vraiment que des magnétos de France 2 au lieu de... Il y aurait pu y avoir des trucs plus variés. Mais au moins, je trouvais que c'était chouette parce que ça nous faisait revisiter certaines très très belles interprétations de certaines chansons. L'autre moment où j'ai écrasé ma larme à part Lynn Renault, c'est quand on voit quand même Morane, quoi. J'étais contente de la voir, voir Céline Dion qui chante Ziggy, etc. C'est des moments qui étaient quand même chouettes. Je déplore le fait que ça n'ait pas été plus structuré vers effectivement quelque chose de plus narratif de la comédie musicale, mais en fait, on disait que la soirée avait été restée un petit peu dans les clous. Du coup, c'était presque le moment le plus divertissant. Je trouvais souvent ces magnétos. Je suis désolée, c'est pas très sympa comme ça.
Est-ce qu'on se fait un petit magnéto avec Morane?
Oui.
On l'écoute.
En 1979, l'opéra rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon renouvelait le genre de la comédie musicale longtemps délaissée en France. Des chansons qui se sont transmises au fil des décennies de génération en génération jusqu'à devenir des classiques.
Sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux extraits de deux émissions à 10 ans d'écart. Puisque le deuxième, c'était Amir qui chantait Quand on arrive en ville l'an dernier pour les 40 ans de Starmania. Et juste avant, c'était Morane dans les 30 ans de Starmania avec France Gall qu'on voit sur le plateau. Et en termes d'émissions réalisées avec public, mais un public mis en scène, avec quelque chose de très écrit, sans qu'on quitte un plateau qui est visuellement très marqué, cette émission-là pour les 30 ans de Starmania est 10 fois meilleure, je trouve. Je ne sais pas si elle se trouve sur Internet, mais il y a des extraits. C'était orchestré par France Gall elle-même. C'était bien meilleur que l'émission qu'on a pu voir, jeudi.
Et c'est là qu'il y a Céline Dion qui vient lui chanter la chanson de Ziggy aussi.
Alors ça, c'est encore un show différent.
Non, c'est encore un truc.
Ouais, c'est un show spécial France Gall qui a eu encore quelques années avant.
Mais en fait, j'aimais bien aussi dans ces magnétos, même si on a déploré le fait qu'ils montraient que des extraits d'émissions de France 2, mais quelque part aussi en termes d'histoire de la télé et d'histoire du rapport de la comédie musicale avec d'autres médias, je trouvais que ça montrait en fait à quel point c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la culture française, dans la culture populaire. Et donc, je trouve que ça avait un sens aussi de montrer même ces magnétos de vieilles émissions télé. Et dernier truc sur les magnétos, j'arrête de vous embêter avec ça. Point touchant quand même quand ils ont montré à Kamel Wally des extraits des 10 commandements et qu'il dit, alors je sais pas si c'est vrai mais si c'est réel c'est assez touchant, lui dit qu'il l'a jamais regardé en entier parce que ça avait été très intense pour lui de chorégraphier ce spectacle et donc du coup que c'était émouvant pour lui de revoir ça. Je trouve ça touchant.
Ouais.
Que c'était son premier, surtout c'était son premier spectacle et c'est ça qu'il raconte.
Et c'est ça, il raconte que c'est son premier spectacle, que c'était du coup quelque chose de très intense, qui avait un gros enjeu pour lui. Mmh. Et voilà, et ça a été une réussite, évidemment, que l'on sait. Hein.
Voilà. Mmh. C'est touchant.
Et donc, dernier top. Alors, je fais exprès de le prendre par un petit point niche, parce que tout le monde va le mettre dans son top et qu'on va terminer là-dessus. Moi, j'aime beaucoup quand il y a... méga surprise, Damien Sargue et Cécilia Cara. Et bon, c'est quand même méga surprise pour moi, parce que je rappelle que je n'aime pas Roméo et Juliette, et précisément, je n'aime pas aimer, je la trouve chiante comme la pluie, cette chanson. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit quand on a fait l'épisode dessus, quand Presgurvic explique qu'il l'a écrite en 10 minutes, ça ne m'étonne pas du tout, en fait. c'est une chanson qui m'emmerde. Leur interprétation est absolument charmante. Et moi, mon top, c'est un tout petit point, c'est dans l'interview de Damien Sargue qui regarde la vidéo de eux quand ils l'ont fait en 2002 et qui fait un commentaire sur ses cheveux. J'ai dit, mais mec, il y a des nanas qui auraient tué pour passer leurs mains dans tes cheveux et t'es en train de faire, oh là là, ces cheveux, quelle horreur. Voilà. Donc, le humble brag de Damien Sargue sur ses cheveux, j'ai trouvé ça drôle. Voilà, je le dis juste comme ça, ça embraye sur la prochaine personne qui voudrait mettre cette chanson-là dans son top 3.
Eh ben, je vais enchaîner, tiens, puisque c'est le numéro 1 de mon top 3. Et c'est, pour moi, c'est la séquence. En fait, j'aurais aimé que toute l'émission ne soit qu'une série de ça, c'est-à-dire de petites madeleines, de choses un peu réinterprétées. Là, il y a une vraie proposition en termes de mise en scène, de mise en image. Il y a aussi une vraie proposition, c'est-à-dire qu'ils ont des nouveaux costumes alors qui font extrêmement référence au film Roméo plus Juliette, puisque Juliette a les grandes ailes dans le dos, elle a ce déguisement d'ange que... Merci, qu'elle a dans le film. Il y a ces croix un petit peu en néon qui sont incrustées dans des écrans, mais l'utilisation des écrans marche bien globalement sur l'émission. Et puis cette version, c'est un petit bonbon, c'est comme on avait l'habitude de l'entendre, mais pas exactement pareil. Les harmonies différentes sur la fin de la chanson, j'ai trouvé ça hyper agréable. Et puis surtout, leur complicité fait que j'y crois. Et quand on a parlé de Roméo et Juliette à plusieurs reprises, on s'était dit que Roméo et Juliette, c'est des ados et que le fait de mettre des gens plus vieux, que ce soit Damien Sargue et Cécilia Cara ou Damien Sargue et Joy Esther dans la deuxième version, était moins crédible. Et en fait, là, il y avait un tel plaisir simple pour eux de chanter ensemble que on aurait dit deux gamins qui se régalaient de chanter ensemble. Et vraiment, j'y croyais. Aujourd'hui, en 2020, voir ça me fait dire, mais j'ai envie de revoir maintenant qu'il le fasse, quoi.
Alors, moi, j'ai presque plus vu une chanson des vieux amants, en fait. Et j'ai trouvé ça absolument charmant, parce que je me suis dit, on revisite notre jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait un charme hallucinant dans cette réinterprétation-là. Et justement, le fait que Cécilia Cara puisse plus placer tout à fait les notes aussi haut montre qu'elle n'est plus aussi jeune. Et donc, ça change le sens de la chanson. Parce que la chanson, au départ, c'est une chanson sur un premier vrai amour. Et là, ça devient... On revoit notre amour qui a été si profond. Et je trouve que c'est chouette.
Ouais. J'aimais bien ça. La suite de mon top 3 va être le miroir du flop 3 de Virginie.
Ça m'a fait marrer.
Mais vraiment, mon top 2, et j'avoue que, alors, j'avais complètement oublié tout ce qui a pu être dit récemment sur Patrick Bruel, donc ça m'a absolument pas effleuré l'esprit au moment où j'ai regardé l'émission. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le passage de Bruel pour plusieurs raisons. D'abord parce que, il ne fait pas partie des invités qu'on a tout le temps dans les émissions de variété, contrairement à certains. Qui sont Chimène Badi, qui sont Vincent Niclot, qui sont tout le temps là, en fait, qui sont vraiment les piliers de ce genre d'émission. Des gens comme Bruel ou encore des gens comme Nicole Croisi. J'ai adoré voir Nicole Croisi reprendre une chanson, même si, c'était bien d'avoir Hello Dolly, ça m'a moins marqué, mais j'ai adoré que Nicole Croisi soit là. Des gens un petit peu plus anciens comme ça, dans un moment où on a... Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire un jeunisme dans la chanson française, mais où en tout cas, les artistes un peu plus anciens sont moins invités. J'ai bien aimé ça. D'autre part, attaqué juste après l'ouverture sur l'opéra de Katsu, qui n'est pas la comédie musicale la plus connue, là, pour le coup, j'ai trouvé ça osé. Et j'aurais bien aimé qu'on explore un peu plus des choses moins connues comme ça. Et puis troisièmement, moi j'ai bien aimé cette reprise. Je l'ai trouvée plutôt sympa. Et je vous propose du coup qu'on écoute un petit bout de la chanson de Maki.
Les dents longues, redoutables. Le requin tue sans merci. Le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquis. Sur les bords, la Tamise, le sang coule dans la nuit. On périt les poches vides, poches pleines. Quelqu'un fuit.
Voilà, et je dois avouer que j'ai un truc avec cette chanson que j'adore, parce que c'est la chanson que j'ai présentée au piano en fin de première année de conservatoire, dans sa version jazz, donc Mack the Knife. Et donc je suis très attaché à cette chanson et j'étais content de l'entendre ce soir-là. Et mon top 1, c'est encore une fois un des flops de Virginie, c'est Le Monde est Stone par Maëlle. et pourtant, Dieu sait que je peux être compliqué quand il s'agit de Starmania, mais j'ai eu l'impression qu'on me proposait quelque chose de différent de d'habitude. Je mets de côté l'instru, qui est une sorte de version Cyndi Lauper au rabais. J'ai vraiment pas accroché avec l'arrangement qui en a été fait, mais je pense que arranger Le Monde est Stone est extrêmement compliqué. J'ai eu l'impression, de la même manière que le passage de Fabienne Thibault à Morane ou à Réjeanne Perry marquait un vrai changement de façon de faire chanter cette chanson et les chansons de Marie-Jeanne dans Starmania, puis à d'autres interprètes comme Isabelle Boulay ou Luce Dufaux dans les versions suivantes avec une voix plus grave, et là j'ai entendu une vraie nouvelle version de la chanson. Au point que je me suis dit, c'est dommage qu'elle soit un peu jeune pour le rôle de Marie-Jeanne, parce que j'aimerais bien entendre ça dans un nouveau Starmania. Et alors, je vois Amélie scandalisée, mais moi j'ai trouvé que justement, l'intensité était beaucoup moins forte, mais complètement différente.
Oui, mais complètement différente, mais tout à fait inappropos, je trouve. Enfin, je trouve que c'est pas Marie-Jeanne, quoi.
C'est... Non, elle pourrait faire Crystal à la limite.
Ouais, voilà. En termes d'âge et en termes de vécu, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais au début, et alors je suis pas parti du tout convaincu. Alors, parenthèse, j'adore Maëlle, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son album et enfin vraiment, c'est pour moi c'est un des nouveaux talents là vraiment marquants. Mais je vais essayer de piocher. En fait, le début de la chanson m'a ennuyé. Et puis ensuite, quand c'est un peu monté, parce que je me suis dit justement, ça manque d'intensité. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc. Alors, je vais essayer de trouver l'extrait. On va voir si j'arrive à tomber à peu près dessus. Vraiment, j'ai trouvé que ça envoyait plus.
Laissez-moi me débattre.
Alors j'ai vu deux visages de désapprobation totale dans la visio. Donc mais voilà, je n'en démordrai pas. J'aime beaucoup.
Mais c'est bien parce que en fait ça montre que effectivement ça rejoint ce que tu dis. Il y avait une proposition parce que ça a été un peu clivant. Enfin là on n'est pas tous d'accord sur cette interprétation. Ça veut dire qu'on la retient aussi.
Et à mon avis,
ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant qui a peut-être qui a été proposé. On ne rejoint pas sur l'engagement, quoi, mais y a quelque chose qui a été proposé.
Ça préfigure quelque chose du Starmania, qui n'est plus le Starmania 2020, mais le Starmania 2021, qui, à mon avis, va être très clivant. Parce que passer derrière tout ce qui a été fait officiellement sur Starmania, va pas être facile. Et puis ça y est, j'ai fait mes trois tops, donc c'est au tour d'Ambre pour conclure cette tournée des tops et des flops.
Bon, tout a été à peu près dit, quoique. Alors j'ai pas fait d'ordre non plus, je vais en faire un. Ok, je vais mettre en premier les danseurs parce qu'on en a parlé mais pas assez je trouve, et là où justement vous disiez tout à l'heure, bon ils viennent, ils chantent, ils se barrent, ça se sent, etc. Les danseurs, alors je parle pas de ceux du Moulin Rouge ni qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, de Paradis Latin, là, je parle vraiment des danseurs de l'émission et tout. Ils ont fait genre tous les tableaux, à peu près. Ils avaient une énergie de dingue. Ils rajoutaient un truc vraiment genre sans eux, c'était pas la même émission. Et là, on se serait vraiment fait chier, je trouve, globalement. Donc, merci en fait pour ces chorégraphies super et pour l'énergie et pour tout ça, quoi.
Amélie, oui, Amélie.
Et j'en place une pour. J'ai été super impressionnée parce que quand Carla a chanté pour Fame. C'était des petites jeunes en fait, je sais pas quel âge elles ont les danseuses, mais elles devaient avoir 15 ans, ouais. Et elles étaient hyper, enfin je sais pas, je les ai trouvées hyper pro et hyper nickel.
Je crois que c'est les danseuses de Carla, si je ne m'abuse, qui étaient avec elle. Je crois qu'elle est avec ses danseuses. Mais donc oui, les danseurs folie, et d'ailleurs, bon pas que ça, hein, le Moulin Rouge aussi trop cool, le Paradis Latin trop cool, et ce que j'ai trop aimé, je sais pas si vous avez remarqué, mais justement sur Chicago, globalement ils faisaient la vraie Corée de All That Jazz, et ça je trouve ça vraiment 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 trop cool parce que bah pour les gens qui connaissent pas trop justement les shows ou encore moins Broadway etc, bah voir un truc qui est vraiment ressemblant de ce que tu vois sur scène quand tu le vois, bah c'est trop trop bien de pouvoir voir ça en prime sur France 2, quoi.
C'est pour ça, voilà. Que globalement je trouve que ça manquait de choses qui ressemblent plus à des extraits de comédie musicale. Et sur les spectacles français, c'était encore plus criant, c'est-à-dire que Florent Motte a chanté seul avec des musiciens, Daniel Lévy a chanté seul avec juste une chorale qui arrive à la fin, Julie Zenati a chanté seul, je crois.
Alors, des charges, il me semble que pour le cas de Daniel Lévy, ce tableau-là, c'est quand même le Salut des Arts. Donc, oui. Il n'y avait pas vraiment de...
C'est vrai.
Et dans le cas de aimer, de vivre, il me semble qu'Esmeralda...
Elle est toute seule.
Oui.
Seule.
Ouais.
Sur le truc, là.
En haut des tours de Notre-Dame.
C'est trop beau, ce tableau, d'ailleurs, dans le spectacle.
Comme tout.
Top 2, alors ça va être en miroir avec ton flop à toi, Julien, sur la réale.
Ouais.
Moi, j'ai mis la Céno, en fait, donc je trouve que ça va globalement avec la réale et tout. Moi, j'ai trouvé ça globalement très, très, très joli, en fait, les tableaux, les plans. Désolée, donc la réal, du coup.
Bah, alors, je suis d'accord sur la scéno et sur la réalisation des moments musicaux.
Ok, bon, ouais. Ça va alors. Mais même surtout au début, j'ai trouvé des plans de coupe, coulisses et tout, hyper esthétiques, hyper jolis. Je l'ai noté direct et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça esthétiquement très joli, l'émission, et très cool. Et je trouve qu'il y a des très bonnes idées de scénographie. Les tableaux étaient globalement vraiment magnifiques et tout, justement avec les danseurs. Donc, c'est un peu un tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet aspect-là de l'émission. Vraiment. Et mon top 3, non, ce ne sera pas Damien et Cécilia, mais presque, parce que j'ai écrit la nostalgie. Donc, ça prend évidemment ce tableau-là, mais pas que. J'ai beaucoup aimé les medley magnéto, là, voir Mourane, voir Grégory Lemarchal, voir France Gall, malgré tout, quand Céline Dion lui chante et tout. J'étais en mode, enfin voilà, plein de petits... De petits jolis moments comme ça, pareil, Hello Dolly, voir un vrai Broadway et tout, je me suis dit, ah, c'est nostalgique, c'est cool. Marilyn, on n'a pas parlé du tableau Marilyn.
C'est vrai.
Moi, j'ai compté, j'ai 20 photos de Marilyn dans ma chambre, genre, c'est, voilà, c'est mon icône de fou. Donc, j'étais très, très, très contente de voir un tableau Diamonds Are a Girl Best Friend par Elodie Frégé, qui était cool.
Ouais.
Chanson voilà. Qui, d'ailleurs, est aussi dans Moulin Rouge.
Voilà. Donc voilà, plein de petits moments un peu bijoux comme ça, un peu pépites, les classiques, Starmania, Notre-Dame, Roméo, enfin voilà, je trouve que tout était réuni pour un bon petit moment de nostalgie pour les gens comme nous qui aiment la comédie musicale malgré tout, et l'apothéose, évidemment, on va finir sur ça, de aimer avec Damien et Cécilia, parce que c'est un moment absolument magique, je pense qu'on ne peut pas le nier.
Je fais juste une micro parenthèse sur les magnétos, mais là on va sortir un peu du côté comédie musicale, on va rentrer dans le côté télé, mais c'est un gros défaut de beaucoup d'émissions en ce moment, de beaucoup mettre de magnétos. Les Molières, c'était ça, alors forcément c'était dans des conditions particulières, mais c'était énormément de magnétos, et déjà les Victoires de la musique en février, tous les moments cool, c'était que des magnétos, et tout ce qui était sur scène était un poil chiant.
Ça rappelle un peu dans les séries télé quand ils commencent à s'essouffler dans certaines séries télé et qu'ils commencent à faire des épisodes medley. C'est ouais. Un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est malheureux de dire que c'était les moments les plus fun parce que ça montre que peut-être au niveau créatif, ce qui a été proposé as of 2020 n'était pas à la hauteur de ce qui était proposé précédemment. C'est un peu dommage de penser comme ça, quoi. Et encore une fois, je refais le parallèle avec l'émission de l'année dernière sur Starmania. Il y avait beaucoup plus de propositions et c'est dommage.
Allez, est-ce qu'on s'écoute aimer ? Est-ce qu'on se la fait en entier pour le
kiff ? Ah oui !
Allez, et après ça, on se dit au revoir.
Qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut, toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et voilà, la version 2020 de Aimé par Damien Sargue et Cécilia Cara. Je ne sais pas si c'est à Gérard Presgurvic ou aux arrangements de Caroline Petit qu'on doit l'harmonie vocale entre les deux voix, mais ça me fout les frissons à chaque fois.
Mmh. Et donc, puis, il y a leur entente à eux, quoi, leur alchimie,
ouais. Ouais.
Qui est toujours assez... qui fonctionne très très bien sur le plan...
Ouais. Ils ont perdu...
On a fait le tour, ça y est, de cette émission dédiée aux comédies musicales. Il y en a pas assez des émissions sur les comédies musicales. Il faudrait un podcast là-dessus. merci d'être venu partager vos impressions sur cette émission. Si vous nous écoutez, venez nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé avec un petit mot-clé. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Ariel Dombal.
Voilà, Ariel Dombal, et dites-nous ce que vous avez, quel est votre top.
Ah ben voilà, faites-nous aussi votre top et flop. Et puis nous, on se retrouve au mois de juillet pour un nouvel épisode où, sans trop vous spoiler, il est possible qu'on ne parle pas forcément d'un truc en français.
Ouais.
Une fois n'est pas coutume.
En fait, on va pas laisser passer cette occasion.
Mais voilà, l'occasion se présente, on va la saisir. Et puis donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, ce que vous avez envie qu'on commente comme spectacle. Laissez-nous des étoiles et puis passez un bon été. Et nous, on se retrouve très vite. Salut.
Des bisous.
Salut.